Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris. Muriel K.S. au micro pour cette dernière émission de l'année.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Allô, c'est bien.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Nous sommes particulièrement heureux à Récréation sonore quand nous avons diffusé un ou une jeune auteurice encore peu connue et que la reconnaissance lui parvient ensuite. C'est le cas de Lucie Charpie, dont nous avions écouté une première œuvre la saison dernière et qui s'est vue décerner le prix Découverte Pierre Schaeffer au concours Phonurgia avec Ligne de Rive que nous allons écouter ce soir. Nous découvrirons ensuite une pièce musicale composée par Paul Régnier, élève de la classe d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin. Ligne de Rive pour commencer. Cette pièce nous parle d'accident, de mort, de destin, mais surtout de vie et d'amitié. Bonne écoute.
Bonjour.
C'est moi Lucie, je vais faire l'émission. Je vais demander à Marie-Lou de parler.
Bonjour, cher public.
Eh bien oui, Marie-Lou, elle vient de Martinique,
cher public.
Eh bien oui, alors parlez-nous un peu de cette magnifique région de France.
Eh bien, il fait très beau, il y a un climat très chaud et c'est très bien.
C'est quoi la chose que vous préférez?
Les acras.
C'est à quel goût? Enfin, c'est comment? Excusez-moi.
De la morue et de la pâte.
Très bien. L'eau est à combien de degrés?
30.
Et l'air?
Ça dépend des jours, mais c'est vers 36.
Très bien. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Marie-Lou, avant, elle était en France. Et puis, en fait, maintenant, elle est en Martinique. Elle a un frère et ses parents. Et là, elle est en vacances chez ses grands-parents. Elle est venue chez moi. Et après, peut-être que je vais aller chez elle. Je vais vous dire à bientôt. Et ça, c'était un souvenir pour se rappeler de Marie-Lou quand j'écouterai le MP3.
Alors, tu m'avais écrit une lettre de Martinique. Salut Lucie, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Devine ce que j'ai acheté. Un MP3. Tout va bien, je suis chez moi en Martinique. Merci pour cette carte qui m'a fait très plaisir. J'ai beaucoup pensé à toi. Moi aussi, j'ai fait des gâteaux avec ma maman et ma grand-mère. J'ai fait 2 fondants au chocolat et 1 gâteau à la noix de coco. Quel plaisir de retrouver sa maison et sa chambre. Je m'impatiente de savoir quand tu viens. J'ai vendu ma cartouche jaune contre une or et j'ai 28 Pokémon dans la or et 12 dans la rouge. Tout va bien, il fait beau. Énorme bisous. Marie-Lou, ta meilleure amie avec 3 points d'exclamation. Ligne de Rive. De Lucie Charpie.
Post Facebook.
15 juillet 2015. Malu, on en a traversé des étapes dans la vie toutes les deux. Après plus de 14 ans d'amitié, je suis trop contente qu'on se retrouve toutes proches pour l'année prochaine. Ma plus grande tristesse avec toi, ça a été de te laisser en France après mon départ, mais te retrouver dans la même ville l'an prochain, c'est vraiment trop cool.
Ce qui était beau, c'est qu'on l'a enterrée pas très loin de la plage, à Danville. Elle a été enterrée dans la même tombe que son grand-père, qui était mort... En gros, je crois que c'était 2 ans avant, son grand-père était décédé. Et donc, c'était chez ces deux grands-parents-là qu'on allait l'été se promener, enfin, faire juste jouer, qu'on passait nos étés, quoi, dans la tente, dans la maison. Et du coup, son urne était de la... Enfin, sa mère l'a choisie d'une couleur bleue. Bleu avec quelques liserés bleu ciel, bleu marine avec un peu de bleu ciel. Et c'était de la couleur d'un de ses pulls qui était très beau. Et donc voilà, donc l'urne est là et elle est tout près d'un champ où il y a des chevaux. Donc c'est super cool parce qu'elle faisait beaucoup d'équitation à une époque. Donc c'est voilà, c'est un lieu hyper beau en fait, ce cimetière. C'est près de la plage, c'est près des chevaux, c'est voilà, c'est près de son grand-père.
Bonjour, donc on a changé de sujet, et ce sera pas les enfants, comment est-ce que vous allez maltraiter, ce sera, que pensez-vous de ce séjour à Clichy? Alors on va parler à Mathilde, la maman de Marie-Lou. Que pensez-vous de ce séjour à Clichy?
Eh ben en fait, c'était très bien. En fait, elles sont restées dans leur tente presque tout le temps, on ne les a pas vues, elles se sont transformées en taupes. Donc, on n'a pas grand-chose à dire.
Et pourquoi dites-vous tout le temps, en fait?
Mais parce que depuis quelques jours, Mademoiselle Charpie et Mademoiselle Chaillant disent tout le temps, en fait. Alors maintenant, je suis contaminée par ce virus. Et je dis toujours, en fait. Voilà, en fait, ça s'est passé comme ça.
D'accord. Bon, ben, on va la laisser fumer avec sa cigarette. À tout à l'heure. Bah, j'ai demandé au grand-père de Marie-Lou.
Qu'est-ce que je pense de ce séjour avec Lucie?
Oui. Eh bien, ça fut parfait. Surtout pour elle, parce qu'il a fait un temps magnifique.
Ouais.
Elle sait pas, je crois qu'elle a passé un bon séjour.
Oui, très bien.
Merci.
Ouais. Je vais demander à Marie-Lou maintenant ce qu'elle a pensé de ce séjour avec moi. Bah, il était très bien, c'était super. D'accord. Nous sommes très bien amusés. D'accord. Alors moi, je pense que c'était très très bien. En plus, on s'est bien amusés dans les dunes. À courir et tout. Et à sauter. Bon, bah, à bientôt. Au revoir.
Bonjour Lucie.
10 juillet 2012. Sache que l'amitié est un long fil d'or qui ne s'éteint qu'à la mort.
Mais du coup, Marie-Lou, elle a... Elle a eu le permis en septembre 2015. Et elle avait juste une petite voiture, genre une petite 106 bleue. Genre vraiment d'occasion, pas très chère, mais elle était trop contente. Je me souviens, elle m'emmenait et tout, elle avait fait faire des petits tours. Enfin, c'était vraiment un truc de vieux pollueur, mais on était juste contente d'utiliser sa voiture pour aller acheter du pain ou des conneries comme ça. Et ouais, en fait, c'était genre... Elle était venue me chercher à la gare avec sa voiture et c'était genre la fête totale. On mettait la musique à fond et c'était génial, quoi. Genre vraiment, on l'a fêté, ce permis. C'était génial. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais le peu de jours qu'on a pu le faire, on était trop heureuses, quoi.
Ça va?
Ça va et toi?
Non, c'est pas de ta faute, c'est pas un vieux.
Je voulais pas t'inquiéter comme ça.
Non, t'inquiète, on fout.
Je vais l'empêcher de se concentrer sur son taf et j'ai même hésité à t'écrire. Je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux que j'attende, mais en même temps, je préfère t'écrire, sachant que je savais pas s'il allait avoir une anesthésie ou quoi. Ou...
Non, clairement. T'as bien fait, pas de soucis, je suis. T'es à l'hôtel?
Ouais, je suis à l'hôtel, ouais. Ouais, ça va.
Ok.
Je suis miraculée.
Oh putain, arrête.
J'ai le bon réflexe. Je me suis replié sur moi-même et j'ai vraiment eu le bon réflexe.
Ah mais non, putain, j'y crois pas.
Après.
Je veux pas réaliser, je suis... Oh là là, ça va ta tête, t'as pas trop mal?
Mais celui-là, je pense que ça devrait... J'ai un peu mal, mais ça va, franchement, j'ai des points de suture, c'est sûr.
Ouais.
Ouais, faut faire gaffe à la plaie, mais j'ai que des hématomes dans le reste du corps, tu vois. C'est juste la serration, quoi, du dos, c'est juste la peau, tu vois. Mais tout va bien, je suis à l'hôtel, je peux marcher sans problème, ça va.
Yeah. Mais t'étais où? T'étais au...
La gare Saint-Nazaire, sur le quai.
Sur le quai du train?
Non mais attends, je peux te raconter si tu veux.
Ouais.
Si tu veux, pour résumer, en fait, j'allais vers mon train pour Cherbourg, et puis je suis montée dans un wagon, c'était pas le bon. Enfin, je pensais que c'était le bon, si tu veux. Sauf que je me suis rendu compte qu'il commençait à démarrer. Et du coup, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, merde, mais attends, c'est mon train qui démarre, là, je suis dedans. Et je me demanderai si tu veux. Et puis, il y a un gars qui était là, et il m'a dit, mais non, il pouvait encore ouvrir la porte, il m'a dit, vas-y, c'est bon, vas-y, tu peux ressortir du train qui avance.
Il avançait un peu.
Ben, il avançait, ouais. Enfin, il commençait à démarrer, si tu veux. Donc, il était à 15 à l'heure, quoi, le train.
Mais la porte était ouverte?
Ben, ouais, en fait, si tu veux, quand il m'a ouvert la porte s'est ouverte. Normalement, c'est pas censé s'ouvrir, mais bon,
ben non.
Bref.
Ok.
Et du coup, sauf que bon, bah, moi, j'étais un peu paniquée. Je lui dis, bah non, elle me dit, mais si, je t'assure et tout. Sauf qu'en plus, j'avais ma grosse valise. Et moi, je dis, bon, ok.
Oh, putain,
et du coup, 0 ou 1, tu vois, je me dis, bah,
non.
Ok, vas-y, j'y vais.
Non.
Parce que je n'aurais jamais dû ça.
Non.
C'est le truc que tu te dis, mais jamais tu fais ça. Surtout que c'est pas comme si on l'entendait tout le temps.
Ben
chaque
non. Non.
Et du coup, je me suis retrouvée dessous. Et là, gros réflexe. Et du coup, je me suis recroquevillée sur moi-même et j'ai attendu que ça arrête.
Et ta valise, comment t'es tombée?
Elle était restée sur le quai.
T'es tombée entre le quai.
Ouais, je suis tombée avec, plus ou moins, quoi.
Ouais. Ah, putain. Et le mec, il a arrêté le train, il a fait...
Ben non, je sais pas, lui, après, j'ai pas revu le mec, hein. Il m'a juste laissé, puis après, il attendait avec les autres, je pense, j'en sais rien, j'ai jamais revu.
Mais le train s'est arrêté quand t'étais dessous? Comment?
Ben, en fait, oui, parce qu'heureusement, il démarrait et quelqu'un a vite donné l'alerte, je pense.
Mais
si tu veux, il s'est arrêté aussitôt, quoi. J'ai vu le train me passer dessus, si tu veux.
Oh.
Sans me sentir, parce que j'ai eu la chance d'être dans le creux et de pas avoir de vêtements qui puissent être pris dans le creux, je sais pas quoi.
Oh.
Et d'être bien recroquevillé, quoi. Je sais pas comment raconter ça, en fait. C'est. Je sais pas. En fait, j'ai même pas vraiment réalisé ce qui m'arrivait. J'attendais juste que ça s'arrête. Mais...
Je vais dire oh là là, pendant très très longtemps.
Et tu vois, 0 ou 1, quoi, moi.
T'as fait face à rien pendant quelques secondes.
À cause de mon 1.
Ouais, à cause de beaucoup de choses, à cause de lui qui dit aussi, ouais, à cause de la partie sur moi, à cause de plein de choses.
Mais c'est comme tout accident, je veux dire, enfin, je pourrais toujours me poser les mêmes questions pour Marion.
Non,
je ne saurais jamais, tu vois.
C'est sûr.
Et je me dis, il me disait, ouais, vous avez une bonne étoile, un ange gardien, je sais pas quoi, mettez un cierge à l'église. Je leur dis, mais attendez, mais enfin, moi, ok, j'ai cette chance, mais putain, mais ma meilleure amie, elle l'a pas vue, enfin, tu vois, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle l'ait plus ou moins que moi, tu vois. C'est rien, tu vois, c'est rien, en fait, la différence. C'est rien, enfin, je sais pas ce que c'est.
Mais du coup, toi, par rapport à Marie-Lou, tu ressentais quoi?
Par rapport à toi, ce qui t'est arrivé? Mais en soi, ce que je veux dire, c'est que... De toute façon, tu peux pas contrôler. Je veux dire, pour Marie-Lou, ce qui est arrivé, c'était pas vraiment de la malchance. Et que toi, t'as eu beaucoup de chance. Et forcément, en fait, c'est pas toi qui choisis. Enfin, je veux dire, tu peux pas te culpabiliser de ça, même si forcément, t'y penses. T'as rien fait.
Oui, mais j'ai aussi rien fait pour empêcher ce qui s'est passé, tu vois.
Oui, mais est-ce que t'avais prévu de passer sous le train, non?
Ben non, mais ça, au contraire, tu vois, j'ai eu de la chance, j'ai eu trop de chance par rapport à elle qu'on a...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur la mort de Marion, c'est pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on peut pas établir de trucs, en plus. On sait pas. Je veux dire, son corps a brûlé. Donc ce que je veux dire, c'est que tu peux pas savoir ce qui s'est passé, ou même ses réactions, etc. On sait rien. C'est juste qu'elle a eu un accident et que ça touchait un poteau électrique. Tu sais ce que je veux dire?
Ben oui. C'est un
peu... En fait, on sait pas. Le tour, toi, on sait.
Ben, on saura
jamais. Voilà, parce que tu nous l'as raconté.
Mais ce qui est horrible, c'est justement ça, c'est qu'on saura jamais.
Ben oui, on saura jamais. Ça, je suis d'accord, on saura jamais. Mais de toute façon, t'as pas à t'en vouloir, ça, je veux dire.
Ben
oui. Tu vois ce que je veux dire?
En fait, c'est complètement irrationnel, mais... Mais du coup.
Mais en soi, t'imagines, genre, si t'étais morte, tu t'en serais voulu de la peine que tu aurais fait en plus. Tu vois ce que je veux dire?
Mais je m'en serais pas voulu parce que je serais morte.
Oui, entre guillemets, tu vois.
Comme une envie de s'habiller en robe noire à paillettes avec du maquillage mal mis, et de recréer une chorégraphie ridicule. Comme une envie de réécrire de jolis petits mots avec plein de fautes d'orthographe sur un vieux drap. Comme une envie de jouer encore au Totally Spies avec des culottes sur la tête.
C'est compliqué parce que malgré tout, il y a ce truc de culpabilité qui fait que j'ai toujours l'impression de me dire « mais je devrais pas être là, tu vois ». À la fois, j'ai envie de reprendre le contrôle et à la fois, je suis tout le temps en train de me dire « mais... tu mérites même pas d'être vivante, en fait. » J'ai un peu le combat de deux pulsions, de la pulsion de... Enfin, c'est vraiment cliché, mais la pulsion de vie, pulsion de mort, tu vois.
Votre amie Marie-Lou M, au champ supermarché.
Sa mère, elle m'avait donné une housse de couette. Je crois qu'apparemment Marie-Lou me l'avait achetée et elle voulait me l'offrir peu de temps après. Je sais pas pourquoi elle m'avait acheté ça d'ailleurs. C'était une housse de couette avec genre des motifs d'écureuil. Je disais, mais pourquoi elle m'a offert ça? Et en même temps, c'était un peu le cadeau posthume, tu vois, où t'es là, mais... J'aurais aimé qu'on puisse justement dormir ensemble dans ce truc et en profiter, mais non, tu vois, cette housse de couette-là, j'arrive toujours pas à l'ouvrir, quoi. Elle est chez moi, elle est là et tout, bien propre, et j'ai...
Le TGV Saint-Mille 444 en provenance de Bordeaux-Saint-Jean et à destination de Strasbourg, départ 16h37, entre en gare, voie 2, éloignez-vous du bord du quai.
Je peux dire une phrase philosophique ?
Vas-y.
Tu vois, la vie, c'est comme un jeu d'échecs. Il y a des pions et on se déplace dans l'espace. Et parfois, il y a les pions adverses qui nous tuent. Et parfois, ils ne nous tuent pas.
S'il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, et que leurs enfants se prennent déjà pour des adultes, ben, je ne sais pas, moi, il faudrait peut-être leur dire arrête de faire ton grand, parce que de toute façon, plus tu seras grand, plus tu seras vieux, et plus tu seras vieux, plus tu seras mort vite, alors.
Ligne de rive de Lucie Charpie. Un grand merci à Manon, Zoé, Clotilde, Nicolas, Eric et aux copaines du Créadoc. Angoulême, avril 2021.
Récréation sonore.
Donc Lucie Charpie, on vient d'écouter Ligne de rive. La question que je me pose, c'est comment t'es venue l'envie de faire cette pièce sonore au moment où tu t'y es lancée ?
Alors, je pense que c'est venu de manière assez spontanée et dans un contexte aussi très particulier. Alors c'est un contexte à la fois, on va dire, de vie, parce que je venais de m'installer à Angoulême. Et j'habitais dans une zone où, assez proche de la gare, et surtout dans laquelle, dans ma chambre, en fait, j'entendais le train passer sous, comme s'il passait sous mon lit, en fait. Donc j'étais dans un contexte qui faisait écho quand même quotidiennement à mon accident de train. Donc c'est quelque chose qui me... Bon, c'est un accident que j'avais eu un an et demi avant, donc c'était quand même assez récent, parce que c'était en 2019. Et j'étais en qu'à l'époque c'était c'était en 2021 et j'avais ce train là qui passait, ce train de marchandises la nuit quoi, qui passait, donc je le sentais vraiment toute la journée, surtout le soir. Et c'est une année où j'avais commencé à travailler la musique électroacoustique et je m'intéressais beaucoup aux sons de train, justement aux sons de voiture, de moteur, de véhicule, enfin de train, de moyen de transport quoi. C'était des choses que j'avais envie de travailler, c'était des matières sur ce moment-là. J'avais envie de travailler ces matières. Et donc, c'était une période où je travaillais des sons de train. Et puis, j'habitais à cet endroit-là. Et je venais de retrouver des archives aussi, très récemment, des archives MP3 de mon enfance, en fait, où on entendait Marie-Lou, qu'on peut entendre dans le documentaire. Et j'avais beaucoup d'archives, et parmi elles, celles qu'on peut entendre dans cette pièce. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou quand même. Ces coïncidences, ces choses, je ne sais pas, j'ai une intuition que j'avais envie de raconter cette histoire. Et aussi, j'étais étudiante au Créadoc à l'époque, en première année de master, où on réalise un documentaire sonore, et je réfléchissais à ce que je voulais faire. Je ne savais pas, il y avait plusieurs choses, et en tout cas, il y avait ce sujet-là où j'avais ces archives, ces matières un peu de train que je travaillais. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de raconter quelque chose autour de ça. Et puis aussi, il y a l'archive téléphonique de discussion avec Nicolas, le garçon qu'on peut entendre. En fait, je lui ai demandé s'il l'avait quand j'étais un peu dans cette recherche de matière. Et en fait, il a retrouvé une conversation téléphonique qu'il avait enregistrée automatiquement sur son téléphone, parce qu'à l'époque, tout était enregistré automatiquement. Il avait une application comme ça qu'il a encore, je crois. Et donc, c'est une application qui enregistre automatiquement toutes les conversations sans qu'on ait besoin de la lancer. Ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec une archive assez incroyable de ce moment. Et donc, je me suis dit, en fait, il y a une histoire à raconter avec ces choses-là. Je sentais que j'étais bien entourée au Créadoc parce que j'avais des amis proches. et que j'avais des personnes qui pouvaient me faire des retours pertinents sur ça. Et je me suis dit, il n'y a pas tellement d'autres moments où dans ma vie, je me sentirais capable de réaliser, monter une histoire comme ça seule. Enfin, et là, j'étais dans un contexte propice à un bon accompagnement, quoi. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça comme documentaire cette année-là, enfin, à ce moment-là, quoi. C'est comme ça.
Et les matières MP3 de ton enfance, tu ne les avais pas en tête quand, par exemple, tu as commencé le Créadoc?
Non, enfin, honnêtement, je ne m'étais pas dit que j'allais utiliser ça, quoi. Je savais que j'avais ça, mais je me disais que c'était des choses un peu bêtes de quand j'étais petite. Enfin, voilà, je savais que j'avais ça, mais je ne savais pas précisément le contenu. Je ne me rappelais pas, par exemple, qu'on avait fait cette fausse émission où je parle de souvenirs de Marilou, ou que je demande à son grand-père et à toute sa famille ce qu'ils ont pensé de leur séjour avec moi. Enfin, c'est des choses qui me parlaient totalement après. Hein. Mais j'avais oublié, en fait, que c'était ça. Pour moi, c'était plus des fausses émissions un peu bêtes où on disait des choses un peu stupides, et donc j'avais pas l'idée de réutiliser ça, quoi. Et en fait, en retombant dessus, j'ai compris qu'il y avait une valeur assez forte là-dedans, et voilà qu'il y avait ça, en fait. C'était assez fort, quoi, de retomber là-dessus.
Et donc la
Pardon.
conversation téléphonique, c'est la vraie conversation téléphonique.
Oui, donc c'est réellement le moment vécu. Alors, sachant que la conversation durait 45 minutes, j'ai évidemment fait du montage à l'intérieur. Mais j'ai quand même choisi, enfin, je trouve qu'elle est quand même assez longue dans le documentaire, elle dure. Et on entend beaucoup de oh là là, de la stupéfaction, en fait, de l'interlocuteur, quoi. Et en fait, je trouvais que ça, le fait de garder quand même un temps suffisamment long de ce moment, en choisissant des parties, évidemment, ça permettait, comme ça, peut-être de se projeter aussi sur le moment, quoi, à la place de. En fait, on est projeté dans le présent de l'accident presque et de j'ai survécu quoi. Et donc ça me paraissait important de voilà de le faire durer.
Ça
Ouais.
parle beaucoup de la richesse des traces hein, aussi en deuxième lecture, je trouve, cet aspect-là.
Ouais, complètement. Et les traces, en plus, c'est quelque chose que enfin, sur lequel je travaille beaucoup. Enfin là, sur un projet de film, c'est vraiment sur les traces et la mémoire d'ailleurs. Mais relié à la fois à l'enfance et aux déchets nucléaires, mais c'est complètement un autre projet. Voilà, mais c'est des choses qui me questionnent, ouais, c'est cette question de trace. Et donc l'archive, et c'est vrai que c'est, voilà, dans ce documentaire, je trouvais que, enfin voilà, j'avais vraiment envie que l'archive prenne de la place et que, parce que je trouve que c'est beau, en fait, ces archives sonores, c'est vraiment des trésors, quoi. Et que là, en plus, dans cette histoire, en l'occurrence, elles se répondent totalement, quoi. Et on dirait de la fiction, presque.
C'est absolument, et tu te, enfin, puisque moi je l'ai écouté plusieurs fois, bien sûr, la première fois, j'ai pas eu de doute du tout sur le fait que c'était vrai, et c'est seulement, parce que ça sonne vrai, quoi. C'est seulement après que je me suis dit, mais c'est pas possible, il a pas enregistré, donc c'est de la fiction, mais je me disais, mais quand même, c'est
Oui.
vachement bien joué, quoi, tu vois, c'est surtout pour une conversation comme celle-là, c'est quand même,
Ouais, ce serait bizarre. Ouais, faut quand même y arriver
voilà.
à jouer ça
Faut
comme
quand même y
ça.
arriver et puis tu vois juste au moment à ce moment-là et pas il n'y a pas d'avant il n'y a pas d'après enfin c'était un peu surréaliste mais c'est vrai que ça cause beaucoup de la richesse des archives quoi et justement bah, un petit peu par opposition à cette notion de richesse des archives il y a aussi une dimension très composée et très travaillée dans la pièce qui, me semble-t-il, donne une impression de son plutôt évocateur que restituant une réalité, c'est-à-dire vraiment la transformant d'une façon, me semble-t-il, assez subjective. Est-ce que c'est comme ça que tu as travaillé? Est-ce que c'est une volonté? Comment tu as travaillé cette composition?
Alors, il y a deux, on va dire, deux grands moments de composition, de grands, enfin, dans le sens où deux moments vraiment complètement de composition avec des sons. Il y a le moment de l'accident et le moment avec le train. Et moi, j'avais commencé à travailler le moment avec le train complètement en dehors du contexte du documentaire. C'est-à-dire, j'avais vraiment pas fait en me disant ça va raconter mon accident, même si, en fait, en la faisant, je me rendais bien compte que c'était plus des impressions qui, moi, me permettait de raconter des sensations et des. Et ouais, des sensations que j'avais pu vivre au moment de l'accident, mais je pense que je ne le conscientisais pas forcément au moment où je composais, et notamment le cri, voilà, du train à vapeur. Bon, effectivement, il n'y a aucun train à vapeur. Enfin, voilà. Il y a plein d'éléments sonores comme ça que j'ai transformés aussi, mis ensemble. Et il y a quand même des bruits de porte. La porte, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et voilà, c'est. Mais pas dans le sens où je raconte étape après étape exactement ce qui se passe, mais. Je pense que voilà, c'était quelque chose de. En fait, je savais que cette composition, ça me permettait de transmettre des choses et des ressentis que je ne pouvais vraiment pas transmettre par des mots, en fait, par le langage. Et c'était une manière d'exprimer les choses par le son, en dehors du langage, plus parlant pour moi, en tout cas plus. Qui raconte quelque chose d'indicible, en fait. Et donc oui, c'est pour ça que cet aspect un peu surréaliste est vraiment très présent. Et donc en fait, après la composition sur la voiture, là j'avais quand même commencé le projet du documentaire, j'avais retrouvé les archives, donc j'étais aussi dans une démarche de pas forcément de réalisme non plus, mais je pensais vraiment à l'accident de Marie-Lou, il y avait vraiment une projection, et sans vouloir être non plus complètement explicite, mais. Mais voilà, je l'ai composé aussi. Voilà, je voulais que les sons de sirène de pompiers, enfin, ce soit des chants. Enfin, voilà, en fait, c'est de la musique pour moi. Donc, comme toute musique, ça transmet des émotions, ça transmet des éléments un peu. Ça permet de faire ressentir des émotions et des choses qu'on peut pas dire, quoi. Donc, je le vois comme de la musique un peu.
C'est vrai qu'on est
Ouais.
vraiment dans les sensations même
Et je pense que
là.
c'était assez spontané en fait. Voilà, j'ai fait de manière très spontanée et en suivant un peu mon intuition musicale, quoi, on va dire, plus que le mental. Fait. Et finalement, je me suis rendu compte que ça racontait bien les choses pour la pièce sonore, quoi, le documentaire.
Justement, par rapport à l'ensemble de ces sons travaillés, un point particulier qui m'a un peu interrogée, c'est pourquoi, comment, quel rôle tu as donné aux voix de synthèse qui interviennent dans le documentaire?
Alors pour moi, c'était la seule manière que j'ai pu trouver de faire sentir la distance des réminiscences informatiques en fait des souvenirs et notamment sur les réseaux sociaux en fait parce que en fait toutes les voix de synthèse reprennent des posts Facebook que Marilou avait mis sur mon mur et quand on perd voilà un proche. Enfin, souvent son profil Facebook n'est pas supprimé et donc depuis sa mort voilà plusieurs années plus tôt j'avais quand même très régulièrement des souvenirs Facebook comme ça qui remontaient ou des pages likées sur Facebook des choses comme ça et qui me faisaient toujours très bizarre puisque c'était comme s'il y avait une actualité de Marie-Lou qui revenait sur mon fil d'actualité Facebook mais ça m'est dans une c'est quelque chose de très froid en fait ces mots enfin c'est informatique c'est numérique et pour mettre à distance ça je voyais pas d'autre solution que d'utiliser une voix de synthèse des mots de Marilou à travers un écran d'ordinateur c'était la voix de synthèse et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça même si voilà je sais que c'est très enfin ça fait bizarre quoi d'entendre une voix de synthèse et en même temps je ne me voyais pas lui donner chair puisque c'est justement cette froideur que j'avais envie de restituer aussi de l'écran du numérique quoi des souvenirs numériques.
Ok, je pensais que aussi la distance du souvenir, enfin, c'est-à-dire la transformation que le souvenir lui-même fait sur les voix, sur les événements, sur les souvenirs, quoi.
Oui, mais c'est pas faux, ouais, c'est vrai que ça joue. Mais je trouve que le côté. Oui, c'est ça. En plus de ça, le souvenir sur les réseaux sociaux comme ça, c'est des choses voilà, qui sont de but en blanc telles qu'elles ont été écrites à l'époque. Mais oui, en fait, il est modifié. Enfin, les souvenirs changent, c'est toujours partiel. Et voilà. Et puis, mais ça nous revient comme ça de façon très particulière, comme je trouve, sur les réseaux sociaux.
Oui, tout à
Et
fait.
c'est.
c'est pas toujours choisi, quoi. C'est pas je retombe sur une boîte avec des objets. Là, il y a vraiment quelque chose de, voilà, de froid, de l'écran. Et en plus, c'est quand même exactement les mots qu'elle avait écrits. Enfin, voilà, il y a quelque chose. C'est pas comme retomber sur une lettre, quoi.
Oui,
un...
oui.
ouais. Et en même temps, voilà, il y a des choses très drôles qu'elle avait écrites sur mon mur, donc c'est quand même drôle, mais c'est des moments forts. C'est quand même fort de retrouver ses souvenirs et on peut en être heureux, mais c'est très étrange.
Ma question, c'est quand on raconte une histoire aussi personnelle, finalement, et qu'en plus la pièce devient prix Découverte Pierre Schaeffer au Fonurgia Awards, qu'on recueille donc une appréciation de cette œuvre, qu'est-ce qu'on en pense après de la pièce quand finalement elle commence à vous échapper, s'agissant d'une histoire très personnelle?
C'est vrai que c'est très étrange, mais c'est quelque chose que. Alors, en fait, j'ai déjà vécu un petit peu avant parce que quand elle a fait quelques festivals ou voilà, des choses comme ça, des diffusions, où déjà je sentais que ça, voilà, je la faisais entendre à pas mal de gens que je connaissais pas. Il y a même des gens qui l'avaient entendue sans me connaître. Et après me rencontrer, c'était un peu étrange. Ça fait toujours un peu. On sent que ce travail-là nous appartient plus complètement et que les gens peuvent se l'approprier. Et en fait, moi, j'en suis. C'est vrai que c'est très particulier parce que c'est mon histoire personnelle quand même, même si, enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et c'est pas forcément la première chose que je vais raconter aux gens quand je rencontre des personnes. Mais le fait de partager ça, ça, voilà, ça me. Quelque part, cette histoire est dans une voilà est dans un objet et des gens peuvent se l'approprier et prendre ce qu'ils ont à prendre ce qu'ils ont envie de prendre dans cette histoire et puis la partager et quelque part ça fait vivre la voix de Marie-Lou en dehors de moi en dehors de nous en dehors de nos vies personnelles et ça en devient voilà un personnage enfin nous devenons des personnages mais je trouve ça assez beau en fait que ça existe sous cette forme voilà un peu en dehors de nous, et je pense que ça, voilà, je l'accepte complètement, et je trouve ça, voilà, je trouve ça très, très beau, mais c'est quand même, je pense que j'ai pas encore assez de recul pour vraiment savoir ce que ça peut me faire. Et je le vois un peu comme ça, comme un objet, voilà, de création en tout cas, qui est voué à être, à vivre en dehors de moi, et tant mieux. Ouais.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette écoute. Et donc, tu as parlé rapidement tout à l'heure de projets en cours. Donc, on peut en
Oui.
savoir un peu plus sur la prochaine fois qu'on pourra entendre une de tes pièces.
Oui, alors là, je parlais d'un projet de film voilà, qui est autour des traces et de la mémoire. J'ai déjà fait un court-métrage là-dessus qui s'appelle Uranus sur la dune. Et j'aimerais un peu le prolonger, mais plutôt pour m'intéresser plus spécifiquement aux personnes en fait, qui travaillent dans le nucléaire à La Hague, en fait, où j'ai grandi. Voilà, mais toujours autour de questionnements autour des traces qu'on laisse et via ces questionnements, les déchets nucléaires aussi. Mais voilà, ça, c'est un projet qui est en cours d'écriture. Donc, je suis encore en train d'y réfléchir, de réfléchir à la réalisation, aux intentions, etc. Mais sinon, là, je viens de travailler sur deux projets à Strasbourg et je suis encore en train de continuer à travailler sur une création sonore avec des détenus en maison d'arrêt que j'ai enregistrés alors qu'ils voyaient des intervenants, en fait, qui venaient leur parler de violence, mais c'était des intervenants très divers, entre un historien, une comédienne, un boxeur, un ancien skinhead repenti. Enfin, voilà, il y avait plein de gens très, très différents qui sont venus les voir et avec qui ils ont dialogué sur la thématique de la violence. Et après, je les ai aussi enregistrés eux, ils se sont enregistrés eux. Et donc, l'idée, c'est voilà, faire une création sonore en partie avec eux, mais quand même montée, réalisée par moi autour voilà, autour de leurs conditions de vie aussi en prison et de ces questionnements autour de la violence et comment ça a fait écho dans leur vie. Donc là, je suis vraiment sur ce travail-là en ce moment jusqu'en janvier. Le but, ce serait vraiment que ça sorte de la prison. Enfin, moi, je le pense comme ça. On l'a pensé comme ça. Mais si l'administration pénitentiaire souhaite mettre son veto, on ne peut pas Elle est contre elle, quoi. C'est un peu le problème. Donc j'espère qu'on pourra faire sortir cette création vraiment, vraiment de cette prison. En tout cas, c'est vraiment l'objectif dans la réalisation, quoi.
Ok, donc on aura bientôt l'occasion de t'écouter à nouveau.
Ben, j'espère, ouais.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Lucie, et puis à la prochaine création.
Merci beaucoup à toi.
Récréation sonore.
Nous écoutons maintenant D'ici je vous entends très bien de Paul Régnier, élève de la classe d'électroacoustique de Marco Marini au conservatoire de Pantin.
Récréation sonore.
J'ai pu discuter avec Paul sur cette composition.
Donc, Paul Régnier, moi, ce que j'aurais souhaité que tu nous dises, c'est un peu à partir de quelle matière tu as travaillé cette pièce.
Alors, il y a un son assez pur qui sert de un peu de fil rouge pendant toute la composition. Celui-là, c'est un feedback de reverb. Une reverb, c'est un phénomène acoustique qui accompagne tous les sons et qui, en gros, ça permet de faire la différence entre un son qui a lieu dans une église ou dans un parking. C'est un peu la signature d'un lieu, on va dire. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé une reverb du coup artificielle, quoi, un effet. Et l'effet, en fait, est bouclé sur lui-même. Et c'est comme une reverb qui est elle-même réverbérée, entre guillemets. Et ça a pour effet, en fait, d'accentuer certaines parties de la fréquence du signal. Et du coup, ça, là, en l'occurrence, ça aboutit à un son, en fait. Ça aboutit à un son très pur. Et la base est ça. Et en fait, j'ai brodé autour. On a des voix qui proviennent d'une cassette que j'ai achetée en brocante, un peu particulière que j'ai achetée parce que il y avait écrit dessus bon anniversaire mamie, quelque chose comme ça. Et je l'ai achetée vraiment par curiosité pour savoir ce qu'il allait avoir dessus. Il se trouve que effectivement, il y a le message d'une petite fille à sa grand-mère pour son anniversaire, mais l'autre partie de la cassette, c'était une conférence sur Alzheimer. Donc, c'était hyper étrange, mais en retournant en fait la voix est inversée. En retournant ça, on avait cette voix caverneuse qui donne un aspect assez c'est assez étrange ce qui se passe parce qu'il y a aucun effet qui est appliqué sur cette piste-là. C'est vraiment cette voix qui a été enregistrée de très loin avec un matériel de très mauvaise qualité. Et du coup, on entend qu'il est dans une grande salle et il y a un son qui est assez régulé, qui donne un genre de tempo. Et je pense qu'il vient directement de l'enregistreur, quoi. Donc, je l'ai utilisé tel quel. Et la dernière piste, c'est une toupie qui tourne sur une plaque de four enregistrée de très près. Et voilà, donc c'est vraiment très simple. Il n'y a que trois sources sonores dans la pièce, quoi. Et tout est monté.
En tous les cas, oui, voilà, elle donne une impression à la fois d'espace lointain et d'espace proche, à la fois à travers ce son assez pur et la voix, où paradoxalement, finalement, c'est la voix qui paraît la plus lointaine, dans un sens, je trouve, fantomatique, quoi.
Alors, ouais, c'est le mot, ouais. Ouais.
Le reste est finalement plus présent, alors que ce sont des sons abstraits, quoi, on va dire.
L'idée, ça s'est fait de manière assez empirique parce que la cassette, là, je l'avais achetée bien longtemps avant et je l'avais un peu écoutée pour voir ce qu'il y avait dedans. Et ça m'est resté en tête. Et comme souvent, c'est à un moment donné, c'est de trouver le bon moment pour pouvoir s'en servir. Et à la base, j'avais fait écouter à Marco, du coup, notre prof au conservatoire, uniquement ce son-là, ce son pur dont je parlais tout à l'heure. Et il m'avait fait remarquer qu'il y avait un côté très méditatif là-dedans. Et en fait, c'est un peu ce mot-clé qui m'a permis de construire autour avec cette voix qui fait comme des incantations et cette toupie qui concentre un peu, enfin, comme une toupie qui permet de concentrer les pensées. Enfin, j'ai un peu pensé comme ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que la pièce est construite.
Quand tu la présentes, tu parles de scintillement lancinant dans lequel se réfugier. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Bah, le scintillement, c'est ce son-là pur dont on parle. En fait, je pense que c'est assez contextuel parce qu'on a deux compositions à faire par an au conservatoire. Et celle-ci, c'est la composition que j'ai présentée pour juin. C'est vrai qu'à ce moment-là, parce que je suis graphiste dans le dessin animé à côté, et c'est vrai qu'au boulot, ça se passait pas super bien. Donc, c'était un peu tumultueux dans ma vie pro à ce moment-là. Et je pense que j'avais vraiment besoin de calme et de sérénité, quoi. Il y a un truc un peu étrange qui s'est passé parce que du coup, je suis les cours d'électroacoustique depuis un an. Là, j'entame ma deuxième année à Pantin, là. Et en fait, on a l'habitude, à chaque séance, de prendre un quart d'heure, voire une demi-heure pour écouter une composition. Et en fait, voilà, via ça, on apprend vraiment à utiliser nos oreilles, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que je sais que depuis, je suis facilement, pas agressé, mais en tout cas, le son me sollicite énormément. Et j'ai l'impression que c'est, vu que c'est assez récent, j'ai quand même l'impression que les deux sont liés, quoi. Et je pense que c'est aussi une réponse à ça, une réponse au fait que maintenant, j'ai l'impression d'être assez, conscient de l'environnement sonore qui m'entoure. Et une envie, en fait, de faire une pièce qui est très dépouillée, avec très peu d'éléments, et de me focaliser sur ce qui est quelque chose de simple, en fait, quoi. D'où cette envie de me réfugier là-dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dedans et c'est rassurant, quoi. C'est plutôt rassurant, quoi. C'est un peu comme ça que je l'explique, quoi. C'est un peu la concordance de, effectivement, une prise de conscience d'un environnement sonore qui est très très présent, plus un environnement professionnel qui était aussi un peu agressif, disons. Et je pense que l'un dans l'autre, c'est ça qui ressort, quoi. C'est une envie de calme et de sérénité. Hein.
Ok. Et alors, tu travailles sur quoi en ce moment?
Donc là, je suis rentré en deuxième année. On va avoir une nouvelle composition à faire pour mars. J'ai la chance là dans ma classe d'avoir pas mal de personnes qui sont issues du milieu associatif et qui organisent pas mal de choses. Donc moi je suis pas du tout musicien ni de ce milieu-là à la base. Donc et là voilà, justement, j'ai beaucoup de temps pour m'impliquer plus là-dedans et c'est vraiment très cool parce que je rencontre plein de gens et de manière générale, j'ai envie que les activités-là perdurent. Avec des gens de ma classe, là, deux personnes en particulier, on se voit souvent pour jouer, donc on verra jusqu'où ça aboutit. J'ai un projet de musique qui s'appelle Le Règne Sauvage, qui est un projet de musique plutôt électro, club, et pareil, ça fait déjà un an qu'on fait des concerts, donc on va continuer là-dessus. Pareil, j'ai un projet solo qui s'appelle Tambourin, et ça commence, enfin, j'ai l'impression que ça commence à avoir. Avoir un peu de résonance, donc voilà, c'est essayer de voir les choses comme elles viennent et continuer sur ces projets-là et tout en essayant de répondre aux enjeux de la vie, de payer mon loyer et tout, quoi. Donc, tout ça, c'est un peu le but, quoi. J'essaie de trouver un équilibre entre mon taf de graphiste et là, la musique qui prend de plus en plus de place dans ma vie, quoi, parce que finalement, ça fait que 4 ans que je fais ça. Donc, voilà, c'est un peu ça les projets, quoi. Essayer de faire perdurer tout ça.
Merci beaucoup,
Bah,
Paul.
merci à toi, bon courage et puis
Merci.
bah, bonne fête de fin d'année quoi, ça va être.
Merci.
C'est la fin de cette émission de récréation sonore. Et au cas où vous seriez passé à côté, c'est également la fin de l'année. Je vous souhaite un bon réveillon et vous retrouverez récréation sonore l'année prochaine avec François dès le 14 janvier. Bonne nouvelle année.
Ich muss nach rechts.